Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec Denis Brognard. Alors évidemment, on va parler de Koh-Lanta, de la polémique autour des animaux et puis de son roman, Un soldat presque exemplaire. Et puis à 10h30, c'est le professeur David Kayat que je recevrai. Ne vous privez plus, il faut arrêter de culpabiliser, ce n'est pas bon pour la santé. Ce sera à 10h30, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Et bonjour Denis Brognard, merci
bonjour
d'être
à tous
avec
les deux.
Nous, on est ravis de vous recevoir ce matin. Pour une fois, vous êtes là, vous êtes à Paris.
Mais oui, en studio.
En présentiel, comme on dit.
Ben, on est bien ensemble, je suis content d'être avec vous.
Oui. Et bah, écoutez, on est content que vous soyez avec nous sur Sud
Radio.
Je n'ai
pas mis mon bandana rouge.
Non,
je suis pour les rouges.
Ouais, j'ai pas mon petit totem. Vous publiez Un soldat presque parfait. C'est un récit paru chez Flammarion. C'est une histoire vraie, très prenante. Franchement, quand on rentre dans le livre, on ne le lâche pas. Et c'est une histoire très très forte avec des scènes de guerre, des scènes. Et puis l'impact, on va en reparler dans un instant. Le courage, effectivement, de ces soldats. C'est un hommage à nos soldats. On en reparlera. Puis on va parler évidemment de Koh-Lanta avec vous. Et Gilles, la question.
C'est la question du jour. En effet, est-ce que Koh-Lanta doit-elle arrêter de diffuser les images de chasse et pêche parce qu'il y a polémique, scandale. Mais quoi, ils ont essayé de pêcher. Mais quel scandale. Alors on pose la question à nos auditeurs. Est-ce que vous pensez que TF1 doit arrêter de diffuser des images de chasse et de pêche? Ils nous disent oui à 18%, non à 82% de nos auditeurs. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour voter. Pour l'instant, ils veulent que les images de chasse ou de pêche soient continuées à diffuser. Alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a une polémique de
l'association PETA.
L'association PETA qui était invitée hier dans Touche pas à mon poste. Rien que pour vous, Denis, je vous ai ramené l'extrait.
Moi, à partir du principe où on essaie de matraquer un animal avec une lance et qu'on le piétine et qu'il essaie de se défendre pour sa survie, je considère que c'est de la cruauté sur les animaux. Oui. On leur demande d'arrêter de diffuser ce genre de pratique, ce genre de cruauté envers les animaux. Et on leur demande aussi d'établir une politique qui va défendre le bien-être animal.
Voilà.
Écoutez, je pense qu'à un moment ou un autre, je suis évidemment du côté de la majorité de vos auditeurs.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que le pêcheur à la ligne, lorsqu'il prend avec un hameçon un poisson, il le fait sans faire, entre guillemets, un peu souffrir le poisson? Enfin, à un moment, il faut arrêter ça. On est dans une émission où ils n'ont rien. Et où on leur dit, vous servez du milieu naturel pour vivre et pour continuer à vivre dans cette aventure. Voilà, et moi
c'est une émission de survie, hein.
Mais ce qui m'amuse, c'est que souvent l'animal est bien plus fort que l'homme, et on l'a vu. La murène, Arnaud, il a eu beau essayer de l'attraper avec ses pieds, et ben la murène, elle s'est carapatée et elle a retrouvé la mer sans aucun problème. Vous imaginez la faible chance, le faible pronostic. Si vous êtes avec une machette pour tenter de tuer une raie.
Oui, mais je vais vous faire l'avocat du diable, parce que je suis plutôt de votre avis, mais je vais faire l'avocat du diable, pour vous dire que c'est de la mise en scène pour un show télé, et c'est ça ce que reproche l'association PETA. C'est que, logiquement, ils n'ont pas à chasser parce qu'ils n'ont pas faim. Vos aventuriers le sont, parce que TF1 les a affamés au cours d'un jeu.
Oui, mais enfin,
donc c'est ça, en fait.
Mais à un moment, quand on mange... appelons un chat. Quand on mange un poulet, quand on mange une entrecôte, alors là, je me mets pas du côté des végétariens, ça veut dire que quelque part, à un moment, on a tué un animal précédemment. Et on fait pas le show, on montre. Koh-Lanta, c'est montrer ce qui se passe. Et effectivement, la nourriture, la recherche de nourriture, que ce soit la recherche de manioc ou la recherche de poisson, ça fait partie. C'est pas la première fois qu'on le fait. Combien de fois on a montré aussi un pêcheur sous-marin, puisqu'ils peuvent gagner, et ce sera encore le cas cette année, un kit de pêche à un moment, avec un fusil harpon. Et si quelqu'un sait se servir d'un fusil harpon, eh bien avec un fusil harpon, il peut toucher des poissons et rapporter des poissons pour que ceux-ci soient mangés. Je vois pas.
C'est pas une corrida.
Mais pas du tout. Et c'est pas. Ils ne pêchent pas pour le plaisir de pêcher. Ils pêchent. Je peux vous dire que s'ils avaient attrapé la murène ou la raie, comme ils ont attrapé ces petits poissons, c'était pour manger parce que surtout les premiers jours dans Koh-Lanta, ils sont absolument affamés. Voilà. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de théâtralisation. Il n'y a pas d'objectif de montrer des scènes de torture. Il y a à montrer la vie et la survie de ces gens qui vivent Koh-Lanta dans le plus grand des dénuements. Voilà, et encore une fois, sur ce dont on parle, Animaux sauvages 2, candidat de Koh-Lanta, zéro, puisque et la Murène et la Raie sont encore tranquillement dans le lagon polynésien.
Donc vous ne répondrez pas à PETA qui veut un Koh-Lanta vegan ?
Je n'ai pas envie de répondre. Franchement, je n'ai pas envie de répondre.
Ça vous saoule ?
Ça m'indiffère.
Ça ne vous met même pas en colère ?
Non, ah non, ça ne me met pas du tout en colère. Mais vous savez, depuis le début de Koh-Lanta, les aventuriers essayent de trouver
oui,
à manger.
Il y avait Mohamed.
La chèvre, c'est différent. Mohamed, on lui a interdit, évidemment.
Il était en plateau, Mohamed,
voilà.
Chez Cyril Hanouna.
Mais la chèvre, c'était différent parce qu'elle était pleine à l'époque. Et donc, effectivement, elle était dans un état qui n'était pas son état normal. Voilà. Maintenant, je vous dis, sur cette histoire de Murène et de Raie, encore une fois, regardez bien les images. La Murène, elle est beaucoup plus forte que la jambe, même le mollet musclé d'Arnaud.
Oui, il y a Brigitte qui nous dit, mais le problème, c'est que la consommation de la raie est interdite en Polynésie. Ah. Voilà, touchez pas à nos raies.
Alors, ils ont expliqué que pas celle-là, pas cette raie spécifique, puisqu'il y a plusieurs sortes de
ça,
raies.
Ça, c'est une raie pastenague. Moi, pour avoir beaucoup nagé et plongé en Polynésie, il y en a beaucoup, beaucoup.
Voilà, exactement. Et qu'ils ont une liste d'animaux à ne pas toucher. C'est ce qu'a expliqué Mohamed hier.
Mais
ils étaient briefés.
Mais ça nous est arrivé une année en Nouvelle-Calédonie. Et on l'a appris très vite. Et on a immédiatement stoppé. Il y avait un animal qui s'appelle le puffin, qui était un espèce d'oiseau, qui est un oiseau un peu particulier. C'est un oiseau qui est quasiment aveugle et qui ne vole pas. Et effectivement, et qui se rapproche des sources de chaleur. Donc dès l'instant où vous avez du feu, bah, ces puffins se rapprochent et c'est assez facile de les chasser. C'est un animal protégé. Nous avons immédiatement, mais instantanément, dans le moment, arrêté et demandé aux aventuriers d'arrêter. Et évidemment, nous leur demandons, et nous avons une liste d'animaux qui sont protégés, nous demandons de ne pas toucher à ces animaux-là.
Ouais, mais c'est fou, enfin, juste pour conclure, comme une association qui lève qui soulève un point comme celui-là, ça devient une polémique dont tout le monde s'empare.
Vous savez, ce qui est étonnant, Valérie, c'est que moi, je regardais les réseaux sociaux, j'ai observé un petit peu les réactions, et les réactions sont assez en accord avec votre sondage. Ouais. C'est-à-dire que généralement, la polémique entraîne la polémique et ça fait un effet boule de neige.
Et
là pas du tout.
Bon, parlons d'autre chose.
Là, pas du tout, parce que les gens qui regardent Koh-Lanta se disent, mais attendez, ce que je viens de vous dire, c'est une émission où les gens n'ont rien et ils doivent se débrouiller seuls. Ouais. Si en plus on leur interdit de pêcher, mais alors ils vont manger quoi ? Du sable ?
Ouais. Non, non. Fin de... Ouais. Fin, alors, Monica...
Et sans aucune envie de polémiquer, etc. Et je suis le premier à dire qu'il faut... Vous voyez, toutes les images abjectes qu'on peut voir sur des laboratoires, sur des abattoirs parfois, mais je suis le premier à défendre la cause animale. Mais il faut raison garder.
Oui,
dans ce cas-là, je crois qu'on est en dehors des clous et en dehors de ce qu'est justement la protection animale.
Ben, on passe au zapping.
On y va.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Alors Denis, Valérie, ça y est, on a fêté les 1 an du confinement. On a passé notre première nuit confinée, évidemment, hier soir. Hier, sur tous les médias, on a ressorti les archives.
Le virus, ça n'existe pas.
Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible.
Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête.
Le rebond, je ne sais pas d'où ça sort.
Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques.
Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction.
Voilà, c'était un petit florilège. On a vu pas mal d'extraits hier également. Le témoignage de Daniel. Alors Daniel, c'est intéressant parce qu'il a 47 ans. Il se croyait pas concerné par le Covid et ça lui est tombé dessus. Un témoignage qui montre le rajeunissement des hospitalisations.
J'ai perdu 15 kilos en 15 jours. Et jusqu'à ce qu'il m'arrive mon problème, je n'ai jamais cessé de faire du sport tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que j'étais même pas très inquiet par rapport au Covid, parce que je me suis dit que j'ai un profil atypique où, normalement, je devrais pas avoir grand-chose à supporter. J'étais contre anti-Covid, j'étais contre le vaccin, j'étais contre presque tout. Et là, c'est fini, j'ai changé mon fusil d'épaule.
Et c'est assez impressionnant à l'image, c'était un sujet et un reportage de BFM. Un moment fort écouté hier, Denis et Valérie, à l'Assemblée au Sénat, pardon, où Laurence Rossignol a demandé au président de la République de révoquer Georges Tron, qui a été condamné pour viol.
Qui est en prison, hein.
Qui est en prison, elle l'a indiqué. Et qui va lui répondre, non pas le président de la République, mais Éric Dupond-Moretti. Petit problème, c'est que le garde des Sceaux est aussi l'avocat de Georges Tron.
Le 17 février dernier, l'ancien ministre et actuel maire de Draveil a été condamné
à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol, agression sexuelle en réunion. Vous avez le pouvoir, en Conseil des ministres, de démettre ce maire. Qu'attendez-vous pour le faire ?
Il me semble que ce justiciable a formé un pourvoi en cassation, que la décision dès lors n'est pas définitive et qu'il se débrouille avec sa conscience. Vous demandez à l'exécutif d'intervenir là-dedans, mais franchement, quelle hérésie !
Je n'aurais jamais cru que le gouvernement envoie pour répondre à ma question l'avocat de Georges Tron, celui qui a traité de menteuse les victimes pendant tout le procès et qui continue aujourd'hui de les traiter de menteuses en arguant de la présomption d'innocence alors que vous avez été condamné.
Oh, je pense que vous en reparlerez avec vos débatteurs tout à l'heure. Et pour finir, hier, c'était Top Chef. Là aussi, hein, une émission qui cartonne comme Koh-Lanta.
Il y a des animaux morts aussi dans Top Chef.
Oh. Ah bah oui.
Bah il y a du poisson.
Il y en a plein les frigos même.
Voilà.
Et hier ils ont fait, vous savez ce que c'est, un nogiri.
Non, c'est japonais, c'est des.
Absolument, c'est une boule avec des choses à l'intérieur. Et Paul Perret leur a demandé d'où venait leur inspiration pour faire de la cuisine japonaise. Vous allez voir, il va être surpris de la réponse.
Un onigiri, c'est une boule de riz à sushi farcie. En général, ça se mange au Japon pendant le goûter, ça se prend comme un petit encas.
Qu'est-ce qui te fait faire un truc d'inspiration japonaise? Attention,
c'est, moi je suis un grand fan de Dragon Ball Z, chef.
De
Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z? Qui est Dragon Ball Z? Et parce que t'es un grand fan de Dragon Ball Z?
Ball Z.
Mais je sais même pas le dire le truc, c'est pour te dire.
Ben vous connaissez Dragon Ball Z?
Je suis pas un grand spécialiste, mais oui.
Il est plus Picsou, on l'avait reçu, Paul Perret. Vous regardez quoi, vous, à la télé? Vous regardez ce type d'émission, Top Chef, Pékin Express?
J'ai pas beaucoup le temps de regarder, mais en tout cas, effectivement, j'en parle avec lui, puisque voilà, j'entretiens des rapports très amicaux avec Stéphane Rothenberg. C'est un peu mon pendant, même si je fais pas du tout l'émission de cuisine sur la 6.
Non, mais Pékin Express...
c'est quelque chose qui m'amuse. Et puis il y a forcément un trait d'union, même si ce sont des émissions différentes, entre Pékin Express, Koh-Lanta...
Oui, puisque Valérie en parle, qu'est-ce que vous en pensez de Pékin Express?
Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé, mais dans l'absolu c'est quelque chose de sympa, c'est le projet de départ de Pékin Express est sympa, et puis je vous dis encore une fois, je trouve que Stéphane Rothenberg mène ça parfaitement bien depuis de très nombreuses années. Le point commun aussi entre Pékin Express et Koh-Lanta, c'est la longévité de cette émission.
Oui, absolument. Parlons de on va dire quand même, on va parler de votre livre, parce que c'est vrai que c'est votre premier roman, enfin c'est un roman, c'est un récit.
Récit romancé.
Très fort sur ce soldat, cette histoire vraie de ce soldat Stanislas qui a été militaire, qui revient de scènes de guerre, de théâtres de guerre particulièrement violents et qui souffre de ce traumatisme. Post-guerre, syndrome post-traumatique. C'est un très très beau livre qui rend hommage à nos soldats. Ça vous tenait à cœur, ça, de leur rendre hommage. Vous êtes parrain des blessés de guerre.
Des blessés de guerre, Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des blessés psychiques et j'ai découvert un petit peu l'ampleur des dégâts de ces blessures qui ne se voient pas de prime abord. Et c'est vrai que l'histoire de Stanislas, je voulais la raconter dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est vraiment les montagnes russes entre des moments d'exaltation exceptionnelle dans sa vie militaire, que ce soit au Kosovo, en Afghanistan, au Mali, là où il est patron d'un groupe de combat, et puis les moments de désœuvrement, les moments de détresse absolue dans sa vie personnelle, où avec l'alcool, avec la violence, il perd totalement pied jusqu'à une nuit de Noël 2008, tenter de mettre fin à la vie de sa femme et de celle qui est aujourd'hui la maman de deux de ses trois enfants. Voilà, c'est les hauts, les bas, et c'est essayer de comprendre comment la guerre a pu entraîner toutes les conséquences sur sa vie personnelle. Donc, finalement, lui trouver un peu des circonstances atténuantes, même si je tiens à le souligner, parce que ce qu'il fait de temps en temps est totalement...
La scène de violence sur sa femme, c'est insupportable.
C'est inqualifiable et c'est impardonnable.
Mais
et personne ne lui pardonne,
ouais.
Ni moi, ni lui-même. Lui, il est très dur envers ses propres agissements.
Mais parce que l'amitié entre militaires et de vivre entre garçons sur les bases et autres fait que c'est aussi beaucoup plus fort parfois que l'amour, en fait. Il y a ça que vous racontez, que leur vraie vie, elle est parfois, il a envie de retourner là-bas et que c'est la vraie vie est là-bas plutôt que de. C'est très dur de revenir dans la réalité.
En fait, quand il part au combat, il a une forme d'exaltation, d'excitation. C'est sa vocation, c'est sa mission première de patriote. Mais dès qu'il est sur place, il a aussi envie de revenir. Enfin, il est dans une forme d'instabilité. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour lui de vivre. Mais il faut aussi bien comprendre que dans ce livre, j'essaye de montrer comment, avec l'aide aussi de l'armée, ce type essaye de se reconstruire, parce qu'à un moment, il est au fond du gouffre. Quand je dis au fond du gouffre, c'est-à-dire qu'il ne peut plus sortir de chez lui, il ne peut plus voir personne, il a peur du moindre bruit, du moindre impondérable dans sa vie. Et petit à petit, grâce à beaucoup de dialogues, eh bien, il arrive à se reconstruire, il arrive à ressortir, il retrouve un métier. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas encore totalement tiré d'affaire, il a un espoir, il a un métier, il revoit ses enfants, il revoit son ex-femme. Et la violence ne l'a pas totalement quitté, mais elle s'est quand même considérablement éloignée.
Vous avez imaginé vous devenir militaire un jour ?
Imaginez non, parce que justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je crois que je n'aurais jamais eu le courage de risquer ma vie. C'est quand même une abnégation extraordinaire que d'être militaire aujourd'hui, quand on y pense. Ouais. Ces gens-là, ils vont dans des théâtres d'opérations souvent extrêmement éloignés de chez nous. Pourquoi ? Pour préserver notre liberté, notre possibilité de vivre dans notre monde, hors Covid évidemment, où on peut faire exactement ce que l'on entend et ce que l'on veut. Regardez le nombre de militaires qui tombent au combat
au Mali, précédemment
en Afghanistan. C'est un métier extrêmement dur, extrêmement risqué. Et ces gens-là, même si on n'est pas forcément très proche de l'armée, si on n'a pas une appétence pour l'armée française, on ne peut qu'avoir du respect pour ces gens-là. Et en tout cas, le militaire qu'il est, le soldat qu'il est, j'ai beaucoup de respect. Beaucoup moins pour la personne qu'il est devenu, avec encore une fois les circonstances atténuantes dont on parle.
Est-ce que Stanislas aurait été un bon candidat pour Koh-Lanta ?
Je crois que oui. Je crois que oui. Maintenant, il aurait dû tempérer un peu ses ardeurs, mais le Stanislas du début, le Stanislas qui part en Somalie à 18 ans, je pense que ça aurait été un bon candidat parce que il est dur au mal et parce que il est capable, de pas mal de choses pour aller loin et en plus très sportif. Donc je pense qu'il aurait été
pas mal.
Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile dans le relationnel.
Oui. Oui. Un soldat presque exemplaire, donc c'est paru chez Flammarion. Parlons de Koh-Lanta. Livre, vous l'avez écrit pendant le confinement ?
J'ai commencé à l'écrire il y a quasiment un an, jour pour jour. Effectivement, j'ai écrit pendant 6 mois et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, en tout cas.
Ça se sent et vous avez une très belle plume, en tout cas, très, très percutante. Et franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc, Koh-Lanta, c'est une saison qui...
Arme secrète.
Oui, et qui est en Polynésie française. Ça a cartonné, déjà, les audiences, 5,7 millions de téléspectateurs. C'est le record depuis 2017. C'est vrai que c'est une émission et que beaucoup ont découvert pendant le confinement. Moi, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui ont découvert Koh-Lanta, puisqu'ils travaillaient en principe ce soir-là, où il y a des gens qui n'étaient pas chez eux. Et c'est vrai que ça vous a amené certainement des gens différents. Gilles,
Donc c'est une saison avec des armes secrètes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les colliers qui sont cachés dans la forêt. Il y a des armes secrètes qui peuvent tout bouleverser. C'est ça qui est incroyable, c'est que Koh-Lanta, ça a presque 20 ans. Et en fait, à chaque fois, on modifie ou on génère de nouvelles règles. Et le succès est là. C'est assez magique quand même.
C'est le but, c'est-à-dire de ne pas lasser le téléspectateur, de conserver cet intérêt. Évidemment, on sait que Koh-Lanta est un concept qui plaît, qui fédère aujourd'hui, qui est rentré dans toutes les familles. Mais chaque année, on apporte ce petit zeste de nouveauté pour que les candidats soient dans un premier temps désarçonnés et que les téléspectateurs assistent à ça avec gourmandise. Regardez les armes secrètes, évidemment, vous parliez des colliers d'immunité, là, avec ces armes secrètes...
On peut annuler le collier d'immunité.
C'est la pire des armes secrètes, la plus redoutable, le bracelet noir. Mais ces armes secrètes, en tout cas, vont effectivement ajouter encore un petit peu dans la stratégie et dans la précarité d'une émission comme celle-ci.
J'ai l'impression que vous mettiez plus de méchants que les autres. Que chaque année, il y a un méchant qu'on déteste et qui se fait taper sur les réseaux sociaux.
Je pense que c'est
bien parti pour le corps, c'est le pharmacien. C'est quand même bien parti pour ceux qui suivent Koh-Lanta.
Mais je ne crois pas qu'il faille parler de méchants. Aurélien, le pharmacien d'agaçant. Normand, il est naturellement leader. Il est leader dans sa vie professionnelle. professionnelle, dans sa vie personnelle. Il tente de l'être sur Koh-Lanta. Et puis Mathieu, il est plutôt brut de fonderie, lui, notre ami corse. Mmh. Voilà, et il dit à l'instant T ce qu'il pense. Est-ce que ça veut dire qu'il est méchant ? Je ne crois pas.
Non, mais le pharmacien, il est un peu retors.
Il est malin. Si c'était un joueur d'échecs, je vous dirais qu'il essaye de jouer avec un ou deux coups d'avance. Mmh. Mais je peux vous garantir que ni l'un ni l'autre, dans le sens littéral du terme, ne sont des méchants. C'est dur de dire que les gens sont méchants. Et je vous le garantis, Mathieu et Aurélien notamment, ne sont pas méchants. Ils ont envie d'aller loin, ils ont envie, avec leur caractère, leur personnalité, de faire la différence par rapport à d'autres. Ça, c'est une certitude. Mais je vous le jure, ils ne sont pas méchants.
Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, une anecdote de tournage sur ce dernier tournage ?
L'anecdote de tournage, c'est surtout qu'on a réussi, alors qu'on était en pleine phase Covid, alors que le confinement était établi en métropole, à tourner dans les meilleures conditions, absolument. Parce qu'on avait créé cette bulle sanitaire avec des tests très stricts, très draconiens avant de partir. Même chose sur place, 5 jours de quarantaine. Et puis, on avait installé, et ça c'est un pari réussi par Alexia Laroche-Joubert et Julien Magne, producteurs et patrons d'ALP, que de créer cette bulle sur un bateau. C'est-à-dire que d'habitude, on est soit dans un hôtel, soit sur une base vie qu'on a construite. Là, on était dans un bateau de croisière.
Vous étiez confiné sur le bateau ?
On était confiné, c'est-à-dire qu'en dehors des tournages, on tournait, on partait avec nos bateaux, etc. On allait sur le tournage, on revenait. Les candidats étaient sans masque, évidemment, vivaient comme si de rien n'était, puisqu'ils étaient tous évidemment négatifs, testés à de multiples reprises. Moi, j'étais sans masque face à eux, mais autrement, on était toujours avec le masque, toujours avec ces distanciations sociales indispensables sur ce bateau de croisière. Et c'est l'anecdote que je voulais vraiment souligner ce matin, parce qu'encore une fois, c'était loin d'être évident d'amener comme ça 200, 250 personnes, tout compris,
absolument.
Et de garder vraiment la bulle complètement hermétique afin que le Covid ne rentre pas.
Il n'y avait aucun cas positif.
Aucun cas. Non.
Et le prochain tournage, c'est quand ?
Et le prochain tournage, c'est dans quelques semaines où, je ne sais pas, d'un seul coup, j'ai une amnésie absolue.
Je pensais réussir.
Le quand dans quelques semaines. Où, d'un seul coup, je ne sais pas.
Ils devront être obligés d'être vaccinés contre la Covid pour pouvoir voyager ?
Mais non, pourquoi voulez-vous que les gens soient obligés d'être vaccinés ? Est-ce que pour un tournage, on oblige les gens à être vaccinés ? Non.
Il y aura les mêmes précautions qui seront prises, des tests. Merci beaucoup, Denis Brognard, d'être venu. On vous retrouve donc pour Koh-Lanta, comme tous les vendredis soirs. Et puis votre livre, Un soldat presque exemplaire, paru chez Flammarion. Merci à vous. Et on se retrouve, nous, dans un instant avec un autre héros, le professeur David Kayat, cancérologue, qui sera avec nous. À tout de suite.
Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
C'est toujours un plaisir de vous écouter et ça fait du bien d'entendre toutes les voix plutôt que d'autres radios que je ne nommerai pas.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'expert qui continue à débattre et à parler avec Denis Brognard, c'est le professeur David Kayat, un autre héros, c'est comme ça que je vous ai présenté, David Kayat, merci d'être avec nous. Vous publiez Arrêtez de vous priver aux éditions Albin Michel, vous êtes oncologue, cancérologue, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le terme, vous avez été président de l'Institut du Cancer, c'est vous qui l'avez même fondé et créé, vous avez été très longtemps le patron du service de cancérologie de la Pitié-Salpêtrière. Oui, pour moi, vous êtes un héros. Tous ces médecins comme vous qui côtoyaient la mort, qui côtoyaient la maladie au quotidien, je pense que ça mérite de vous rendre hommage. Alors là, c'est un livre qui nous déculpabilise. Arrêtez de vous priver. Moi, j'étais très étonnée quand je l'ai lu. Je me suis dit, ciel, un cancérologue qui nous dit de manger de la charcuterie, d'arrêter d'avoir peur de tout.
Ben oui,
c'est le message que vous aviez envie de passer.
Vous avez vraiment résumé l'esprit du livre. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Ouais. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens n'en peuvent plus non plus. Parce que quand vous faites le total de tout ce qu'on nous dit, de toutes ces injonctions santé qui nous promettent la vie éternelle, l'absence de maladie, la beauté, le corps parfait, si on les écoute, c'est quoi ? C'est plus de sucre parce que ça nourrit les cellules cancéreuses, plus de gras parce que ça donne de l'artérosclérose, plus de sel, ça fait de la tension artérielle, plus de charcuterie et de viande rouge, ça donne le cancer du côlon, plus de vin, ça donne à peu près toutes les maladies, plus de soleil, c'est un cancer de la... À un moment donné, stop !
Oui, mais c'est vrai stop. Tout ça, non ?
Non, mais non, mais justement, j'explique que c'est pas forcément vrai. D'abord, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes tous différents. Et qu'entre un type qui est brun avec des yeux marrons et un type qui bronze bien quand il va au soleil et quelqu'un qui est blond avec des yeux bleus et qui, lui, prend des coups de soleil, le risque de cancer de la peau après une exposition au soleil n'est pas le même. Et c'est pareil pour la charcuterie, pour tout ce que je viens de citer. L'autre raison, c'est que on nous parle de danger en permanence. Ouais, c'est dangereux de manger ça, c'est dangereux de faire ça. La question, c'est est-ce que c'est quand c'est dangereux, est-ce que c'est risqué? Alors, les gens comprennent pas quand je dis ça, mais si, mais c'est fondamentalement important. Pourquoi? Je vais vous prendre une métaphore vraiment pour les gamins, un peu presque trop simpliste, mais voilà. Prenez par exemple l'exemple suivant. Vous avez les grands requins blancs, ceux des dents de la mer. Eh ben, c'est dangereux pour l'homme, hein. Ça mange les hommes. Bon, donc c'est dangereux. Où sont les requins blancs? Dans la mer. Donc aller dans la mer est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué d'aller dans la mer? Mais pas du tout, parce que la probabilité que vous rencontriez un requin blanc en vous baignant à Marseille, elle est nulle.
Oui, mais quand on fume, c'est vous qui m'aviez dit ça un jour. Je vous avais dit, mais je comprends pas. Il y a des gens qui ont fumé jusqu'à 90 ans qui ont jamais eu de cancer. Oui, vous m'avez dit, mais c'est comme traverser un champ de mines puis éviter les mines.
Voilà, donc, c'est la chance.
Voilà.
Mais alors, c'est le seul sujet, parce que j'aborde tous les sujets dans ce livre.
Vous abordez tous les sujets, voilà,
et avec vraiment de la documentation. Mais c'est le seul sujet, le tabac, où je dis... Alors, le tabac, ça me permet d'aborder la notion d'addiction.
Ouais.
Et cette notion d'addiction, elle revient sur... pour des gens qui ont de notre génération, à vous et moi, il y a 20 ans, on disait à un type qui était déprimé, une femme qui était déprimée, qui sortait pas de son lit, qui voulait plus aller bosser, on lui disait, allez, secoue-toi, ça suffit, maintenant, va te raser, va t'habiller, va te laver. Oui, sauf que 20 ans après, on a compris que c'était une maladie. Et que de dire à ces gens, secoue-toi, ça ne sert à rien. Sur le tabac, c'est la même chose. Quand on dit à un type, arrête de fumer, mais est-ce que simplement c'est une... Aujourd'hui, on sait que ces fumeurs sont des malades. Ils ont une addiction. Et simplement dire, arrête de fumer, c'est une question de volonté, c'est faux. Je vais vous donner deux exemples. Une étude très complète qui vient de sortir aux États-Unis qui montre que quand vous interviewez des fumeurs, un peu plus de 70% vous disent qu'ils rêvent d'arrêter de fumer. Un peu plus de 60% essayent d'arrêter de fumer. 8% y arrivent. Deuxième étude intéressante. Si vous prenez les gens à qui vous faites le diagnostic d'un cancer du poumon, fumeur, et vous leur annoncez qu'ils ont un cancer du poumon, chimio, mort et tout ce que vous voulez, eh ben 64% d'entre eux n'arrivent pas à s'arrêter de fumer et vont fumer jusqu'à leur mort. Donc, c'est pas si facile.
Non, c'est pas si facile.
Alors là, sur le tabac, ce que je dis, c'est que, bien sûr, que le rapport à un produit cancérigène ou à une attitude cancérigène, un comportement cancérigène, il y a toujours la notion de dose ou de durée du carcinogène. C'est-à-dire qu'entre fumer une cigarette et un paquet, entre aller au soleil 5 minutes et 4 heures, entre manger une tranche de jambon et 3 kilos de charcuterie par semaine, le risque n'est pas le même. Mais... ce qui est terrible avec le tabac, c'est que dès la première cigarette, il y a un risque. Alors moi, ce que je dis sur le tabac dans ce livre, c'est que comme c'est une maladie, il faut essayer d'aider ces gens avec toutes les innovations technologiques qui existent, comme Le snus, qui est un petit truc de nicotine, de tabac qu'on met dans la bouche, et qui fait qu'en Suède, où il est autorisé, il n'y a plus que 5% des fumeurs, alors qu'en France, je vous rappelle qu'on est entre 25 et 30% et que le chiffre n'a pas réellement baissé en réalité.
Il n'a pas vraiment baissé.
Hein. Bon. L'innovation comme les cigarettes électroniques, qui ont permis, d'après Santé publique France, d'arrêter 700 000 Français d'arrêter de fumer, quand même, hein, donc c'est quand même assez efficace. La nicotine, c'est ce qui crée l'addiction, mais ça ne donne pas le cancer. Donc, prendre de la nicotine, c'est pas dangereux et c'est pas, ça n'a pas de rapport avec... Et puis, les nouvelles, nouveaux dispositifs qu'on appelle le tabac chauffé, ou même la FDA, ou l'Agence de santé d'Angleterre, de Hollande, etc., ont confirmé que ces produits-là avaient une baisse de dangerosité de l'ordre de 90-95%. Donc, bien sûr que tout ça, le snus, la cigarette électronique, le tabac chauffé, c'est pas des choses sans danger. Mmh. C'est pas des choses anodines, il s'agit pas de... Mais c'est beaucoup moins dangereux. Et moi, quand je vois un fumeur, et j'en vois malheureusement toute ma vie, et que je lui dis, il faut arrêter de fumer et qu'il peut pas, ben, plutôt que de le voir continuer de fumer ses foutues cigarettes qui vont augmenter son risque de développer un cancer ou de récidiver, je préfère lui dire, essayez la cigarette électronique ou autre chose. Alors que l'OMS, dont on a vu la qualité de ses travaux avec la pandémie, hein. Ils nous ont fait perdre 2 mois, il y a des millions de morts, il y a des centaines de milliers de morts à cause de ça. L'OMS ne veut toujours pas reconnaître la cigarette électronique, par exemple.
Brigitte nous dit, ça servira à quoi d'arrêter de fumer une fois que le cancer est déclaré? C'est le seul plaisir qui reste dans la vie.
Parce qu'on sait aujourd'hui qu'arrêter de fumer augmente la survie après le diagnostic. On vit beaucoup plus longtemps quand on a un cancer si on a arrêté de fumer.
Il faut arrêter. Dans le livre, vous dites donc, déculpabilisons-nous. Ça, c'est le message que vous essayez, que vous voulez faire passer. Mais c'est déculpabilisons-nous, mais en gardant quand même des limites.
C'est pas un livre de débauche.
Non, c'est ça.
C'est un livre d'équilibre.
Absolument.
D'équilibre. Mais l'équilibre, c'est pas de faire un tout petit peu tous les jours, c'est aussi de faire quelque chose d'extraordinaire un jour et ensuite de compenser avec 2-3 jours où on va être beaucoup plus calme. Quand on vous dit, par exemple, le vin, les recommandations... Alors, si vous buvez pas de vin, n'en buvez pas. Hein. Mais si vous buvez, la recommandation du Haut Comité de Santé Publique, c'est de dire 10 verres par semaine, c'est-à-dire 2 verres par jour, pas tous les jours. Bon.
Mais je peux boire 10 verres d'un coup un jour.
Mais vous pouvez faire 10 verres d'un... Voilà. Non, divers, ça fait du binge drinking.
Non.
Mais 3-4 verres à table avec des copains dans une belle soirée, et puis pendant 2-3 jours, de l'eau. Si vous faites un gros gueuleton, et il m'arrive d'en faire, pendant 16 heures ou 20 heures, je vais prendre des bouillons, je vais prendre du thé, je vais prendre des tisanes, je vais prendre de l'eau, du café, et je vais compenser. L'important, l'organisme est fait pour supporter des agressions, pour supporter... Il y a des carcinogènes partout, dans ce qu'on touche, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Mais on n'a pas tous des cancers,
heureusement. Mais on n'est pas tous égaux non plus devant le cancer.
Ceux qui ont... Alors, moi, ce que je dis, si... Je parle du sel, par exemple, je donne le tableau.
Il y a énormément de petits trucs, il y a beaucoup d'informations. Moi, j'ai découvert des choses, pourtant, ça fait un moment que je lis sur le sujet, et j'ai découvert des tas de choses dans votre livre. Effectivement, sur le sel, vous y dites, il y a des sels qui sont moins riches en sodium.
Des sels moins riches en sodium, mais ce que je trouve fantastique, parce que moi, j'adore l'eau gazeuse, je bois de l'eau gazeuse, parce que je fais beaucoup de vrais faux. J'enlève des idées fausses.
Absolument.
Alors, c'est faux que l'eau gazeuse, c'est dangereux pour la santé, que ça fait grossir, c'est tout une bêtise
c'est
totale.
Salé.
Alors, c'est salé, mais pas toutes. Et si vous voulez, je donne le tableau de la quantité de sel qu'il y a dans les eaux minérales en fonction de l'eau minérale. Et entre une
vous pouvez citer les marques.
Entre une Badoit et une San Pellegrino, c'est 5 fois plus. De sel. Bon, alors qu'est-ce que je veux dire par là ?
Il y a 33,3% de sodium, je l'avais noté, ça, dans une San Pellegrino, 9,6% dans une Perrier, 1,9% dans une Badoit, dans une Valvert, pardon, 180% dans une Badoit, 180%.
Alors, contre 30.
Et alors la Châteldon, c'est 240.
Alors, si vous voulez, c'est très simple. Il y a 5 fois plus de sel dans une bouteille de Badoit que dans une bouteille de San Pellegrino. Et 10 fois plus que dans une bouteille de Perrier bleu, etc.
Donc c'est des petits trucs au quotidien.
Alors, encore une fois, ça n'a aucune importance, le sel, si vous n'avez pas tendance à faire de l'hypertension artérielle. Par contre, c'est là où on n'est pas tous égaux. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se bourrer de sel et de gras. Mais si vous n'avez pas... ces jeunes femmes que je vois qui se lancent dans des régimes invraisemblables où ils vont essayer de perdre 10 kilos en un mois alors qu'elles n'ont que 3-4 kilos trop, parce que le regard de la société sur ce que nous sommes nous incite en permanence à la recherche de ce corps parfait, de cette vie parfaite, de cette hygiène de vie parfaite. C'est ce que William Lovenstein appelle, que je trouve admirable, cette phrase, la tyrannie de l'idéal.
Absolument.
Mais c'est vrai. Mais il faut arrêter. Si vous avez 3-4 kilos en trop et que vous êtes en bonne santé, mais gardez-les. Faites-en un atout. Même, c'est votre beauté, c'est votre charme, c'est qui vous êtes.
Il y a des injonctions de la société qui veulent
veulent qu'on soit tous minces.
Et alors on finit par vous culpabiliser parce qu'on vous dit voilà, vous n'y arrivez pas, vous manquez de volonté, vous gâchez ce capital vie qu'on vous a donné à la naissance. Mais c'est pas vrai, on n'est pas tous des héros, on n'est pas tous des génies, on n'est pas tous des types capables de tout contrôler. Et dans ce livre, j'explique, c'est le début du livre, j'explique comment finalement on n'est pas libre de faire ce qu'on veut parce que on a ces trois cerveaux, on a la boucle de la récompense, ce qu'on appelle. Qui nous conduit en permanence à chercher à reproduire du bonheur en mangeant, voilà, c'est ce tableau-là.
Il y a le schéma qui est dedans, le cycle de la dépendance.
Le cycle de la dépendance, alors c'est le circuit de la récompense qui crée le cycle de la dépendance, c'est quoi ? Bah, par exemple, le nouveau-né, quand il arrive au monde, il a le récepteur, il n'a qu'un seul récepteur gustatif dans la bouche, c'est celui pour le sucre. Le sel, la mer, l'acide viendront un peu plus tard. Et ce gamin qui n'a que des récepteurs pour le sucre, on lui met le mamelon de sa mère dans la bouche, plut, une petite goutte de colostrum, de lait, très sucré. Et là, il associe ce goût sucré avec le fait d'être contre le sein de sa mère, la chaleur, l'odeur de sa mère, l'amour, enfin, etc. Toute sa vie, il va rechercher ça. Il va rechercher à reproduire ce circuit de la récompense. Je mange du sucre, je suis heureux.
Alors comment on en sort ?
Ça, j'explique.
Oui, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Oui. Alors,
et ben, la stratégie, c'est des petits pas. Voilà. C'est-à-dire que moi, je déteste les décisions qu'on prend le 1er janvier.
Voilà.
C'est fini.
C'est promis, demain j'arrête.
Voilà, demain j'arrête. Mais vous connaissez beaucoup de gens qui ont tenu ?
Non.
Bon.
Non, on a tous... effectivement, donc il faut se donner des petits objectifs,
alors, voilà, par exemple,
y arriver...
vous dites, on sait que l'activité... Alors, par exemple, il y a plein d'idées fausses. Les gens pensent que ce qui est bon pour la santé, c'est le sport. Non, c'est l'activité. Toutes les études qui ont montré l'importance de l'activité, ils ne parlaient pas de sport, ils parlaient d'activité. Alors l'activité, c'est quoi ? Quand vous nettoyez la salle de bain, c'est, pendant une demi-heure, c'est 200 calories, c'est de l'activité.
C'est bouger, c'est pas rester sur son canapé.
Et ce que je dis, c'est que si vous voulez bouger, descendez du bus une station avant et finissez à pied. Ouais. Au lieu d'aller jusqu'au 4e étage avec l'ascenseur, allez au 3e, montez un étage à pied. C'est des petits pas, mais ces petits pas, ils vont chaque semaine, chaque mois, s'amplifier. Ils correspondent à une vraie modification de vos comportements vers plus d'hygiène. Et à la fin, c'est aussi bien que d'aller courir une heure dans un club de gym.
Il faut comprendre effectivement que ce sont des modifications de nos comportements. Vous donnez beaucoup de conseils. Vous revenez sur les nitrites dans la charcuterie.
Alors ça,
enfin, on va pas tout dire parce que sinon les gens ne l'achèteront plus. Mais mais vous donnez énormément de conseils. Et puis à la fin, moi j'ai beaucoup aimé la feuille de route en fonction de l'âge. Je trouve que c'est et puis c'est quoi l'essentiel, c'est de bien dormir.
Alors,
il y a
sept trucs, mais c'est d'abord, par exemple, il y a des choses qui sont très bien, le sexe, le sourire, la méditation, le sommeil, effectivement, le repos. Ouais. Par exemple, on ne sait pas, mais il y a des vraies études qui ont montré que la méditation augmentait l'activité, ce qu'on appelle les télomères, qui sont des petites structures à l'intérieur de notre ADN, qui permettent de maintenir l'ADN en forme et donc d'éviter un certain nombre de maladies. Bon, il y a des choses très simples que l'on peut faire chacun d'entre nous sans que ça nous bouleverse complètement notre vie. Et ce que je dis à tout le monde, c'est écoutez, si vous avez envie de manger une portion de frites, mangez-la, mais sans vous culpabiliser, quoi. Profitez de l'avoir mangée.
Et puis demain, vous ne la mangerez pas.
Voilà.
Arrêtez de vous priver. C'est paru chez Albin Michel. C'est une mine de conseils et d'informations. Laurence nous dit je l'aime bien, ce monsieur. Est-ce qu'il peut parler à mon médecin ? Eh bien, offrez-lui le livre à votre médecin. Merci beaucoup, professeur Kayat, d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.